Bonjour à tous.
Alors pour ne pas faire comme d'habitude, je vous propose de commencer ce moment par un chant. Mais non pas un chant que nous allons chanter, un chant que nous allons écouter. Alexis ? Voilà, vous l'aurez peut-être reconnu, nous avons entendu ce matin l'hymne national d'Israël. Alors que Dieu fit bien les choses, puisque ce matin, avec Paul, nous ne sommes pas du tout concertés, et le temps de louange aura été une belle introduction pour cette prédication, puisque ce chant a été écrit en Ukraine en 1878 sous le nom de Tikvatenu, qui signifie notre espoir. La musique a été adaptée 10 années plus tard par Samuel Cohen, d'après une mélodie populaire de Moldavie, puis nommée Hatikva, qui signifie jardin de l'espoir. Et voici ce que disent les paroles que nous avons entendues. Tant qu'au fond du cœur, l'âme juive vibre, et dirigé vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe. Notre espoir n'est pas encore perdu. Cet espoir, vieux de 2000 ans, être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Je lirai au chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Donc dans le livre des Actes, au chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Et nous lisons ceci. Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. La prédication de ce matin est construite autour de trois mots-clés. Jérusalem, délivrance et Messie. Jérusalem. Jérusalem est au cœur de toutes les intrigues, de tous les suspenses ou de toutes les péripéties du peuple juif. Jérusalem est la capitale de leur nation, elle a une place centrale jusque dans leur hymne national. Imaginez que Paris soit chanté dans la Marseillaise comme un lieu d'espoir où nous trouverons la liberté. Alors cela, évidemment, nous semble absurde, car nous n'avons pas la même vision de Paris que le peuple juif a de Jérusalem. Plus qu'une simple capitale, Jérusalem est le lieu de la bénédiction divine. Cette bénédiction se traduira par la libération du peuple juif. Pour eux, être libre ailleurs n'aurait pas la même saveur, pas la même valeur, ni la même importance. Nulle autre ville n'a d'égal avec Jérusalem. Nul autre lieu n'a d'aussi grande importance que Sion. Car pour les Juifs, c'est en ce lieu que Dieu réside. C'est dans cette ville que Dieu est en communion avec son peuple. Dans la Bible, traduction Semeur, le mot « Sion » est mentionné 166 fois. Le mot « Sion » signifie un lieu élevé. Il est le nom que l'on donne à la colline, aussi nommée Hermon, sur laquelle est construite la partie la plus ancienne de Jérusalem. Sion désigne divers quartiers tels que la forteresse des Jébuséens, la cité de David, le sanctuaire de l'Éternel, la montagne sainte de Dieu ou encore la ville de Jérusalem elle-même. Sion représente la présence de Dieu, puisqu'il réside, comme nous pouvons le lire dans le psaume 132, verset 13, « Parce que le Seigneur a fait choix de Sion, il a fait choix de Sion, oui, il l'a désiré pour son habitation. » Il est intéressant de creuser. Car la racine du mot « Sion » vient du mot « Sii » qui signifie « la hauteur » provoquée par l'orgueil. Une interprétation permettrait de dire que Sion, ou la ville de Jérusalem est, en quelque sorte, l'orgueil du peuple juif. D'où cet orgueil pourrait-il prendre son origine ? Comme nous pouvons le comprendre dans la Rativa, l'identité juive est très forte. Mettons-nous à leur place. Ils sont le peuple choisi parmi tous les autres peuples. Dieu s'exprime par l'intermédiaire de Moïse dans Exode au chapitre 19, verset 5, et leur dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Quel peuple ne se sentirait pas rempli d'orgueil s'il se savait choisi personnellement par le Dieu créateur et propriétaire de la terre ? Malheureusement, c'est cet orgueil qui est à l'origine de leur éloignement avec la ville de Jérusalem. C'est cet orgueil qui provoqua l'exil en Babylone. C'est cet orgueil qui entraîna la destruction de Jérusalem. C'est cet orgueil qui les sépara de la présence de Dieu à Sion. Tandis que le peuple juif est persuadé que la grâce de Dieu leur est réservée, Dieu se choisit un nouveau peuple, un nouvel Israël, un peuple rempli du Saint-Esprit qui sera s'humilier devant lui. Ce peuple profitera de sa présence, non pas seulement à Jérusalem, mais partout où nous sommes. Car celui-ci réside maintenant dans nos cœurs par son esprit. C'est de Jérusalem que le peuple de Dieu se métamorphose. Privilège d'abord réservé à un petit nombre, il devient accessible à toutes les nations du monde. Dorénavant, la bénédiction n'est plus seulement au bénéfice des descendants d'Abraham, mais plus largement à ses héritiers dans la foi. Tandis que le peuple juif est encore focalisé sur une libération qui lui est réservée et dont il pourra pleinement jouir uniquement sur la terre de Sion et de Jérusalem, comme l'annonce la Rativa, Jésus ordonne à ses disciples « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Car il souhaite que le message de l'Évangile et la grâce de Dieu soient diffusés dans le monde entier et non réservés à un seul peuple en un seul lieu. Délivrance. Comme nous pouvons l'apprendre dans leur hymne, le peuple juif garde l'espoir d'une délivrance depuis 2000 ans. Pour mieux comprendre de quelle délivrance il est question, nous devons savoir ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. Pour quelle raison le peuple juif garde les yeux rivés 2000 ans en arrière ? Alors nous ferions l'erreur de croire qu'il est question ici de Jésus. Pour répondre à cette question, nous devons plutôt fouiller dans l'histoire d'Israël. C'est en l'an 6 que la Judée, la Samarie et l'Idumée deviennent provinces romaines. Juste avant cela, le peuple juif jouit depuis une dizaine d'années d'une totale liberté, ce qui ne leur était pas arrivé depuis fort longtemps. En effet, depuis la déportation en Babylone, le peuple juif a subi l'oppression de nombreux peuples avant d'être enfin libre. Toutefois, cette paix ne dure pas, car Rome étend son royaume jusqu'en Palestine. Les Juifs ne s'en remettront jamais tout à fait. Après de nombreuses tentatives pour retrouver un semblant de liberté, suite à de nombreuses révoltes, l'armée romaine commence le siège de Jérusalem en l'an 66 et prend fin 4 ans plus tard par une défaite cuisante du peuple juif. Le temple de Dieu est alors détruit et le peuple fuit. C'est le début de la deuxième diaspora. La première étant la déportation du peuple juif en Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Tandis que le peuple juif surmonte la première diaspora lorsqu'il se repent de son orgueil et se retrouve à nouveau réuni grâce à la reconstruction de Jérusalem entreprise par Néhémie, le peuple juif ne sera plus jamais réuni suite à la seconde diaspora, même 2000 ans plus tard. Après la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948 suite à la Shoah, encore aujourd'hui de nombreux Juifs vifs dispersés dans le monde et chantent « Notre espoir n'est pas encore perdu. Cet espoir vieux de 2000 ans, être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. » L'espoir d'une délivrance est aussi présent dans le cœur des apôtres, car je le rappelle, eux aussi sont juifs et probablement qu'eux aussi étaient fiers de l'être. Et cultivent une grande amertume due à l'oppression romaine. Les apôtres ont attendu 3 ans depuis leur rencontre avec leur Messie pour lui poser cette question délicate. Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Reformuler cette question aurait pu donner : Seigneur, est-ce maintenant que tu délivres le peuple juif de ses oppresseurs venus de Rome. Après 3 ans passés avec Jésus, ils n'ont toujours pas compris que le royaume de Dieu va bien au-delà d'Israël ou de l'Empire romain. Pourquoi alors pose-t-il cette question ? Et pourquoi maintenant ? Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Cette promesse, nous la trouvons dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, versets 5 et 6. Et nous dit, « Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il règnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. » Les apôtres ne comprennent pas encore le sens de cette promesse. Ils ne comprennent pas de quelle délivrance il est ici question, car il n'est évidemment pas question d'une délivrance physique, mais bien d'une délivrance spirituelle. Non d'un salut palpable, mais bien du salut de l'âme. Encore aujourd'hui, le peuple juif est dans l'espoir de la délivrance promise, car il n'a pas compris que la vraie délivrance est celle du péché, offert par le Saint-Esprit grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Le peuple juif est obnubilé par l'idée d'être délivré physiquement. C'est malheureusement cela qui provoquera leur égarement. Leur mauvaise compréhension de cette promesse de Dieu les empêchera de recevoir la délivrance quand Jésus le leur a proposé. Jésus est clair. Il ne pouvait l'être davantage. Le temps de la délivrance ne nous appartient pas. Seul Dieu, par sa puissance et sa connaissance, est capable de déterminer le bon moment. Les apôtres et tous les juifs auraient préféré, évidemment, une réponse du style « Oui, le moment est venu, l'Esprit de Dieu boutera l'ennemi en dehors d'Israël. » Il peut être très frustrant de ne pas connaître les échéances de notre Dieu. Et pourtant, cela est d'une telle nécessité pour la création d'une relation de confiance avec lui. Toutefois, Dieu comprend notre détresse et ne nous laisse pas seuls dans nos situations. Jésus annonce la réception d'une puissance. Non d'une puissance militaire afin de combattre l'armée romaine, mais une puissance divine pour combattre le péché qui envahit nos cœurs. Dorénavant, vous aurez la force d'affronter qui vous êtes, ce que vous êtes, afin de vous libérer de votre péché, de vos paroles mensongères, de vos désirs malsains, de vos gestes grossiers, ou encore de votre orgueil. La venue du Saint-Esprit marque l'ouverture du salut à tous les peuples, peu importe leur origine, leur langue ou leur culture. Seule la foi compte. Nous qui avons trouvé la vraie délivrance, nous devons et nous devenons les témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. En tant que tels, nous avons le devoir de partager cette puissance, cette vérité, de partager cette bonne nouvelle, de partager la foi qui délivre, non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. C'est sur ces paroles que Jésus monte au ciel. Messie. Le mot « Messie » signifie « poser la main sur quelqu'un ou quelque chose dans le but de le bénir, de lui faire du bien ». Le Messie est un prophète de Dieu qui a pour but d'apporter un enseignement pour une meilleure morale, une libération spirituelle. C'est en quelque sorte un titre réservé aux hommes et aux femmes qui sont envoyés par Dieu pour délivrer son peuple de la mort spirituelle. À l'époque de Jésus, l'invasion romaine entretenait chez le peuple juif une attitude de révolte. C'est dans cette attitude que le peuple crée une vision erronée du mot « Messie ». Celui-ci ne comprend plus l'action morale, mais se focalise sur l'aspect libérateur. Une libération physique et non plus une libération spirituelle. Le Messie, en tant qu'envoyé de Dieu pour une rédemption, avait disparu de leur compréhension. Aujourd'hui encore, le peuple juif est dans l'attente du Messie, du libérateur, qui les sauvera de l'oppression et les réunira sur la terre de Sion et de Jérusalem, afin de vivre à nouveau des temps de paix et de liberté. Dans la Bible, nous prenons conscience de cette vision à travers, entre autres, le chemin d'Emmaüs. Lorsque nous lisons les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, les versets 17 à 21. Jésus leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur répondit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait prêter pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils étaient aveuglés par leur colère, aveuglés par leur amertume, aveuglés par leur désir de délivrance, aveuglés par leur tristesse d'avoir perdu l'homme qui aurait pu soulever Israël pour se battre contre l'armée romaine. Seul une poignée d'hommes et de femmes ont reconnu en Jésus le Messie, celui qui avait été promis par Dieu. Nous pouvons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, les versets 16 et 17, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Que disent les gens à mon sujet ?» moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ?» leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Tandis que le peuple juif est encore dans l'attente du Messie qui les délivrera sur la terre de Sion et de Jérusalem, tandis qu'il se pose encore et toujours cette question, à quand la venue du libérateur? Le peuple de racheté, le nouvel Israël, est déjà libéré du péché et dans l'attente du retour du Christ et de son ultime jugement. J'en viens à ma conclusion. Jésus s'apprête. Pourquoi gémir? Levons nos têtes. Il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi, mon seul bien. Vous aurez reconnu ici un extrait du cantique « Ô, prends mon âme » que nous entonnerons tout à l'heure. Avez-vous déjà remarqué que ce cantique est écrit sur l'air de la Ratigva? Écrit sur l'air de l'hymne national d'Israël, toutefois son sens est tout autre. Tandis que les Juifs chantent « Notre espoir n'est pas encore perdu, être un peuple libre sur notre terre », nous chantons « Jésus s'apprête ». Pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Jésus, le Messie, le Fils du Dieu Très-Haut, nous a délivrés. Il est mort et ressuscité. Il est vivant. Il est monté à la droite du Père. Il revient bientôt et redescendra un jour de la même manière que nous l'avons vu y monter. Nous serons alors tous réunis avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Amen.